Le masque. À la vérité, je n'ai pas seulement décidé de parler du Moyen-Âge, j'ai décidé de parler dans le Moyen-Âge, et par la bouche d'un chroniqueur de l'époque. J'étais un narrateur débutant, et les narrateurs, je les avais regardés jusqu'alors de l'autre côté de la barrière. J'avais honte de raconter. Je me sentais un peu comme ce critique de théâtre qui s'exposerait tout à coup au feu de la rampe et se verrait regardé par ceux qui, jusqu'à présent, avaient été ses complices au parterre. Peut-on dire, c'était une belle matinée de la fin novembre, sans se sentir Snoopy? Et si je le faisais dire à Snoopy? C'est-à-dire, si c'était une belle matinée? C'était quelqu'un d'autorisé à le dire qui le disait, parce que cela pouvait se faire à son époque. Un masque. Voilà ce qu'il me fallait. Je me suis mis à lire et à relire les chroniqueurs médiévaux pour en acquérir le rythme et la candeur. Ils parleraient pour moi, et moi je serais libre de tout soupçon. Libre de tout soupçon, mais pas des échos de l'intertextualité. J'ai redécouvert ainsi ce que les écrivains ont toujours su, et que tant de fois ils nous ont dit, les livres parlent toujours d'autres livres, et chaque histoire raconte une histoire déjà racontée. Homère le savait, l'Arioste le savait, sans parler de Rabelais ou de Cervantes. C'est pourquoi mon histoire ne pouvait que commencer par le manuscrit retrouvé. C'est pourquoi cette histoire aussi serait une citation, naturellement. J'écrivis tout de suite l'introduction, plaçant ma narration à un quatrième niveau d'emboîtement à l'intérieur de trois autres narrations. Moi, je dis que Vallée disait que Mabillon a dit que Hatzo dit... J'étais désormais libéré de toute crainte. J'ai alors cessé d'écrire pendant un an. J'ai arrêté parce que j'ai découvert une autre chose que je savais déjà, que tout le monde savait, mais que j'ai mieux comprise en travaillant. Et j'ai découvert qu'un roman n'a rien à voir en première instance avec les mots. Écrire un roman, c'est affaire de cosmologie, comme l'histoire que raconte la Genèse. Il faut bien se choisir des modèles, disait Woody Allen. Le roman comme fait cosmologique. Je pense que pour raconter, il faut avant tout se construire un monde le plus meublé possible, jusque dans les plus petits détails. Si je construisais un fleuve, deux rives, et si sur la rive gauche je mettais un pêcheur, si j'attribuais à ce pêcheur un caractère irascible, et un casier judiciaire pas très net, voilà, je pourrais commencer à écrire en traduisant en mots ce qui ne peut pas ne pas arriver. Que fait un pêcheur? Il pêche. Et voilà toute une séquence de gestes plus ou moins inévitables. Et puis, que se passe-t-il? Soit ça mord, soit ça ne mord pas. Si ça mord, le pêcheur prend des poissons et s'en retourne chez lui tout content. Fin de l'histoire. Si ça ne mord pas, étant donné qu'il est irascible, peut-être va-t-il se mettre en colère. Peut-être cassera-t-il sa canne à pêche. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà une ébauche. Or, il y a un proverbe indien qui dit « Assieds-toi sur la rive du fleuve et attends. Le cadavre de ton ennemi ne tardera pas à passer. » Et si, entraîné par le courant, passait un cadavre, puisque la possibilité en est contenue dans l'air intertextuel du fleuve? N'oublions pas que mon pêcheur a un casier judiciaire chargé. Voudra-t-il courir le risque de se mettre dans de sales draps? Que fera-t-il? Fuira-t-il? Feindra-t-il de ne pas voir le cadavre? Sentira-t-il peser sur lui tous les soupçons, car après tout, ce cadavre est celui de l'homme qu'il haïssait. Irascible comme il l'est, s'emportera-t-il parce qu'il n'a pu accomplir lui-même la vengeance ardemment désirée? Vous voyez, il a suffi de meubler le monde avec presque rien. Et déjà, il y a le début d'une histoire. Il y a aussi le début d'un style. Parce qu'un pêcheur qui pêche devrait m'imposer un rythme narratif lent, fluvial, celui de son attente patiente, mais aussi des sursauts de son impatiente irritabilité. Il faut construire le monde. Les mots viennent ensuite presque tout seuls. Rem tene verba sequentur. Le contraire de ce qui, je crois, se passe avec la poésie. Verba tene res sequentur. La première année de travail sur mon roman a été consacré à la construction du monde, long et geste de tous les livres que l'on pouvait trouver dans une bibliothèque médiévale. Liste de noms et fiches d'état civil pour de nombreux personnages, dont beaucoup ont été ensuite éliminés de l'histoire, car il me fallait savoir aussi qui étaient les autres moines qui n'apparaissaient pas dans le livre. Il n'était pas nécessaire que le lecteur les connaisse, mais moi, je me devais de les connaître. Qui a dit que la narrativité doit faire concurrence à l'état civil? Peut-être doit-elle aussi faire concurrence au ministère de l'urbanisme. D'où de longues enquêtes architecturales sur des photos et des plans dans l'encyclopédie de l'architecture pour établir le plan de mon abbaye, les distances jusqu'au nombre de marches d'un escalier en colimaçon. Marco Ferreri m'a dit que mes dialogues sont cinématographiques parce qu'ils sont temporellement justes. Forcément, quand deux de mes personnages parlaient en allant du réfectoire au cloître, j'écrivais le plan sous les yeux et quand ils étaient arrivés, ils cessaient de parler. Il faut se créer des contraintes pour pouvoir inventer en toute liberté. En poésie, la contrainte peut être donnée par le pied, le vers, la rime, par ce que les contemporains ont appelé le souffle, selon l'oreille. Pour la narrativité, la contrainte est donnée par le monde sous-jacent. Et cela n'a rien à voir avec le réalisme, même si cela explique jusqu'au réalisme. On peut construire un monde totalement irréel, où les ânes volent, où les princesses sont ressuscitées par un baiser, mais il faut que ce monde, purement possible et irréaliste, existe selon des structures définies au départ. Il faut savoir si c'est un monde où une princesse peut être ressuscitée uniquement par le baiser d'un prince, ou encore par celui d'une sorcière, si le baiser d'une princesse retransforme en prince les seuls crapauds, ou bien aussi, mettons, les tatous. L'histoire aussi faisait partie de mon monde. Voilà pourquoi j'ai lu et relu tant de chroniques médiévales. En les lisant, je me suis aperçu que devaient entrer dans mon roman des choses qui au début ne m'avaient même pas effleuré, comme les luttes pour la pauvreté ou l'inquisition contre les fraticelles. Un exemple. Pourquoi dans mon livre y a-t-il des fraticelles du XIVe siècle ? Quitte à écrire une histoire médiévale, autant la situer au XIIIe ou au XIIe siècle, car je les connaissais mieux que le XIVe. Oui, mais j'avais besoin d'un investigateur, anglais si possible, citation intertextuelle, qui ait un grand sens de l'observation et une particulière sensibilité à l'interprétation des indices. Ces qualités, on ne les trouvait que dans le milieu franciscain. Et après Roger Bacon, en outre, on a une théorie développée des signes de chez les occamistes. Plus exactement, cette théorie existait avant. Mais avant, soit l'interprétation des signes était de type symbolique, soit elle tendait à lire dans les signes les idées et les universaux. C'est seulement chez Bacon ou Occam qu'on utilise les signes pour aller vers la connaissance des individus. Donc, je devais situer mon histoire au XIVe siècle, avec beaucoup d'irritation d'ailleurs, car je m'y sentais moins à l'aise. Je fis de nouvelles lectures et découvris qu'un franciscain du XIVe, même anglais, ne pouvait ignorer le débat sur la pauvreté, surtout s'il était ami, disciple ou connaisseur d'Occam. Au début, j'avais décidé que l'investigateur devait être Occam lui-même, mais j'y ai renoncé parce que, humainement, le vénérable Inkeptor m'est antipathique. Mais pourquoi tout se passe-t-il à la fin du mois de novembre 1327 ? Parce qu'en décembre, Michel de Cézanne est déjà en Avignon. Voilà ce que signifie meubler un monde dans un roman historique. Certains éléments, comme le nombre des marches, dépendent d'une décision de l'auteur. D'autres, comme les déplacements de Michel, dépendent du monde réel qui, dans ce type de roman, vient parfois coïncider avec le monde possible de la narration. Or, novembre, c'était trop tôt. En effet, j'avais aussi besoin de tuer un cochon. Pourquoi ? C'est tout simple. Pour pouvoir fourrer la tête la première, un cadavre dans une jarre de sang. Et pourquoi ce besoin ? Parce que la seconde trompette de l'Apocalypse dit que, je n'allais tout de même pas changer l'Apocalypse, elle faisait partie du monde. Il ne me restait qu'à situer l'abbaye en montagne, de façon à avoir déjà de la neige. Autrement, mon histoire aurait pu se dérouler en plaine, à Pomposa ou à Conques. C'est le monde construit qui nous dit comment l'histoire doit avancer. Tout le monde me demande pourquoi Jorge évoque par son nom Borges et pourquoi Borges est si malfaisant. Mais je ne sais pas. Je voulais un aveugle gardien d'une bibliothèque, ce qui me semblait être une bonne idée narrative, et bibliothèque plus aveugle ne peut donner que Borges, parce qu'aussi il faut bien payer ses dettes. Quand j'ai mis Jorge dans la bibliothèque, je ne savais pas encore que c'était lui l'assassin. Il a pour ainsi dire tout fait tout seul, et qu'on n'aille pas penser qu'il s'agit là d'une position idéaliste. Les personnages ont une vie propre, et l'auteur, presque en transe, les fait agir en fonction de ce qu'il lui suggère. Ce sont des sottises tout juste bonnes pour un sujet de dissertation au baccalauréat. Non, la vérité est que les personnages sont contraints d'agir selon les lois du monde où ils vivent et que le narrateur est prisonnier de ses prémices. Le labyrinthe fut aussi pour moi une belle aventure. Tous les labyrinthes dont j'avais eu connaissance, et j'avais entre les mains la splendide étude de Sant'Arcangeli, étaient des labyrinthes à ciel ouvert. Ils pouvaient être très compliqués et pleins de circonvolutions. Mais moi, j'avais besoin d'un labyrinthe fermé. A-t-on jamais vu une bibliothèque à ciel ouvert ? Et s'il était trop compliqué, avec beaucoup de couloirs et de salles internes, il n'y avait plus une aération suffisante. Et une bonne aération était nécessaire pour alimenter l'incendie. Que l'édifice dût brûler à la fin, cela était très clair pour moi, pour des raisons cosmologico-historiques. Au Moyen-Âge, les cathédrales et les couvents brûlaient tels des fétus de paille. Imaginer une histoire médiévale sans incendie, c'est comme imaginer un film de guerre dans le Pacifique sans un avion de chasse en flammes qui tombe en piqué. C'est pourquoi j'ai travaillé 2 ou 3 mois à la construction d'un labyrinthe adapté. Et à la fin, j'ai dû y ajouter des meurtrières, sinon l'air aurait toujours été insuffisant.